Tout leur matériel, ça leur sert à se mettre sur la même longueur d'onde que les gens qui écoutent cette fréquence. Il ne reste donc plus qu'une solution, il faut diminuer le volume de votre radio. Le mieux serait de la débrancher.
Débrancher la radio? Oh nom de Dieu, il a perdu la tête!
Vous écoutez Principe Actif à Évreux 102.4, dans le sud de l'Eure, 95.9.
Il est 5h en temps universel, 7h ici à Paris, 1h de plus à Beyrouth.
Clotilde Dumay.
Bonjour à tous, merci d'être avec nous vendredi 24 avril 2026. On est ensemble pour les trois prochaines heures, l'actualité à travers le monde avec des reportages, des chroniques, des invités. On va d'ailleurs passer par Washington, hein, puisque notre grande invitée internationale ce matin, c'est Audrey Lefebvre. Elle a maquillé la famille Trump, Joe Biden, les Clinton et beaucoup d'autres personnalités politiques aux États-Unis. Elle décrit les coulisses de la Maison-Blanche et du pouvoir. Elle raconte ses anecdotes dans un livre, La Confidente. Rendez-vous dans un peu plus d'une heure vers 8h20, heure de Paris. En attendant, le journal. Bonjour Jérôme Bastion.
Bonjour Clotilde. À la une de cette édition, les négociations libano-israéliennes se sont très bien passées, déclare Donald Trump à l'issue de ce second tour de discussion directe entre les ambassadeurs, qui se conclut sur la prolongation de 3 semaines de trêve, une trêve jusque-là bien peu respectée. Et bien que le cessez-le-feu soit relativement bien observé, cette fois entre États-Unis et Iran, c'est une paix armée qui prévaut et le double blocus du détroit d'Hormuz perdure. En Iran, l'économie en ressent les conséquences et les habitants se plaignent d'une inflation galopante. L'Ukraine, qui continue de recevoir une pluie de missiles et de drones meurtriers, savoure l'accord des Européens, Hongrie comprise, pour débloquer un prêt de 90 milliards d'euros qui permet de voir l'avenir sous un angle un peu moins sombre. Visite officielle du président tchadien en Algérie depuis mercredi. Des dizaines d'accords bilatéraux ont été signés pour faire passer les relations entre les deux pays d'amitié traditionnelle à un partenariat stratégique, explique Mahamat Idriss Déby. Et puis nous nous intéresserons dans ce journal également à la première conférence internationale sur la sortie des énergies fossiles en Colombie. Une sorte d'alternative à la COP qui tombe à point nommé avec la crise énergétique alimentée par la crise au Moyen-Orient.
À Washington, le deuxième round de négociations entre ambassadeurs libanais et israéliens, c'est donc très bien passé. Voilà ce qu'a affirmé dans la soirée le président américain.
Une rencontre sous l'égide de l'administration américaine qui s'est achevée dans la soirée sur un résultat presque inespéré. L'objectif était de prolonger cette trêve qui expirait ce dimanche de 10 jours. Eh bien, le président Trump a annoncé que le cessez-le-feu serait finalement prolongé de 3 semaines. Et la Maison-Blanche espère recevoir à court terme les dirigeants israéliens et libanais pour parvenir à un règlement pérenne de la crise. Compte rendu à Washington de Vincent Souriot.
Les discussions devaient se tenir au département d'État, au siège de la diplomatie américaine, mais Donald Trump a bouleversé le protocole. Et c'est à la Maison-Blanche que cette réunion s'est tenue, en présence du président américain, qui veut profiter de ces 3 nouvelles semaines de trêve pour organiser une rencontre historique entre le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le chef de l'État libanais Joseph Aoun, alors qu'Israël et le Liban n'ont aucune relation diplomatique et sont techniquement en état de guerre depuis 1948.
Ils se trouvent à côté l'un de l'autre. Ce sont des gens formidables. Et ils ne se sont jamais rencontrés. Ça devrait être assez facile.
Donald Trump ajoute que les États-Unis vont aider le Liban, je cite, à se protéger du Hezbollah. Il n'a pas dit de quelle manière, mais l'attitude du mouvement chiite libanais a visiblement été au cœur de ce rendez-vous. Et le président américain répète qu'à ses yeux, Israël aura toujours le droit de riposter en cas d'attaque ou de tir de roquette visant le territoire israélien, y compris dans le cadre du cessez-le-feu. Vincent Sourio, Washington RFI.
Les dirigeants libanais accusent par ailleurs Israël d'avoir perpétré un crime de guerre après la mort mercredi d'une journaliste dans une frappe aérienne au sud du Liban. Amal Khalil, 42 ans, journaliste du quotidien Al-Akhbar, a été tuée et sa collègue Zeynab Farage blessée dans une région où les forces israéliennes occupent plusieurs zones. Israël cible délibérément les journalistes dans le but de cacher la vérité sur ses crimes contre le Liban, a affirmé le président Joseph Aoun. Le premier ministre Nawaf Salam estime, lui, que cibler des journalistes et entraver l'accès des équipes de secours constitue un crime de guerre. Il promet également que son pays poursuivra l'affaire devant les instances internationales.
Alors, le président Trump estime que l'économie iranienne est à genoux, Jérôme, qu'elle souffre du blocus des ports iraniens, mais qu'en est-il exactement ?
Eh bien, les experts doutent quelque peu de ces affirmations péremptoires, estimant que l'économie iranienne est résiliente, car largement autosuffisante, et habituée aux sanctions financières, notamment. Il n'en reste pas moins que pour les habitants, l'inflation est bien là, alimentée entre autres par la destruction de nombre d'infrastructures. Un peu plus de 2 semaines après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu avec le blocus des ports iraniens, les prix se sont de nouveau envolés, atteignant des niveaux records, Siavosh Ghazi.
C'est un nouveau choc pour de nombreux Iraniens. Le prix de nombreux produits de consommation courante, mais aussi des plastiques, ont doublé en quelques jours. Comme l'explique Hossein, un commerçant d'une cinquantaine d'années qui ne comprend pas ces hausses soudaines.
Le prix des œufs a augmenté de plus de 100% en une semaine. C'est la même chose pour tous les produits en plastique, notamment les sacs poubelles qui ont doublé. Les produits laitiers, comme le yaourt ou les fromages, augmentent pratiquement tous les jours. C'est encore pire pour les saucisses ou le jambon.
Ce qui pèse considérablement sur la vie de tous les jours des Iraniens, sans doute un effet du blocus des ports iraniens par les Américains, mais aussi les frappes contre les installations économiques et civiles pendant la guerre de 40 jours. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Et il n'y a toujours aucun signe d'une prochaine reprise des pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, même si Donald Trump a affirmé jeudi soir que ces discussions pourraient reprendre dans les prochaines heures. Le président américain, qui assure par ailleurs avoir tout le temps nécessaire pour mener à bien ces négociations, contrairement à l'Iran, pour qui le compte à rebours a commencé, souligne-t-il.
Dans l'actualité également, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui se dit favorable à une mise en œuvre rapide du prêt de 90 milliards d'euros à Kiev.
Volodymyr Zelensky, qui était à Chypre pour ce sommet européen, et s'est dit très reconnaissant aux côtés des présidents de la Commission, Ursula von der Leyen, et du Conseil européen, Antonio Costa. Il a salué un grand jour pour son pays. En Ukraine même, le 18e forum sur la sécurité de Kiev a ouvert ses portes en cette fin de semaine. Il rassemble des acteurs majeurs du monde politique, de la défense surtout, et du milieu académique. Ce rendez-vous, une initiative de l'ancien premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk, est devenu un rendez-vous incontournable depuis 2022. Les précisions sur place de notre correspondante Emmanuelle Chaz.
Pour sa 18e édition, le Forum sur la sécurité de Kiev pose la question fondamentale d'une lumière au bout du tunnel. Dans le contexte de la guerre d'agression russe et de la volatilité des alliances mondiales, l'interrogation est de mise. Mais pour l'Ukraine, il y a de la place pour l'optimisme, surtout après la décision de Bruxelles concernant le prêt de 90 milliards d'euros promis à Kiev, comme le souligne l'écrivain et politologue Nicolas Tenzer, un habitué du Forum.
Déblocage des fonds, c'est quand même une bonne nouvelle, même si je pense que les Européens auraient trouvé un système si Orban était resté au pouvoir. Mais surtout, ce qui est aussi, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'état d'esprit est plus optimiste. Les Ukrainiens résistent de mieux en mieux. Ils ont développé leur nouveau système d'armes. J'ai l'impression quand même que les Européens, aujourd'hui, se mobilisent beaucoup plus.
Une mobilisation qui, selon Nicolas Tenzer, ne peut que bénéficier aux alliés de l'Ukraine qui a développé une expertise recherchée en matière de défense.
Moi, j'ai ressenti, même dans des discussions, une relative frustration chez un certain nombre de responsables militaires de l'OTAN qui aimeraient bien faire plus, qui se rendent bien compte qu'ils devraient aujourd'hui vraiment accroître non seulement leur coopération, mais complètement intégrer l'Ukraine dans le dispositif. D'ailleurs, ce serait un atout extraordinaire pour l'OTAN, mais avec les blocages politiques que l'on sait, c'est difficile.
C'est justement dans cette optique que les acteurs de la défense ukrainienne échangent avec leurs partenaires internationaux lors du forum, avec à la clé la présentation des innovations utilisées sur le champ de bataille pour inciter davantage de coopération à un moment où la perspective d'un cessez-le-feu ou d'un accord de paix semble encore très lointaine. Emmanuel Chasse, Kiev, RFI.
Et en attendant des jours meilleurs, eh bien l'Ukraine reste toujours sous la menace des frappes russes quotidiennes. Des frappes sur la ville d'Odessa, dans le sud du pays, ont fait 2 morts et 14 blessés, annonce ce vendredi matin les services d'urgence. Et puis un séisme de magnitude 5,8 s'est produit vendredi matin, donc au large des côtes de la Crète, en Grèce. La secousse a été détectée il y a 3 heures environ, à une profondeur de 12 kilomètres et à environ 11 kilomètres et demi au sud-est de la ville côtière de Hierapetra. On ne connaît pas pour l'instant le bilan humain ou matériel.
Le président du Tchad, Mahamat Idriss Déby, a entamé mercredi une visite d'État en Algérie.
Accueilli en grande pompe par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, le chef d'État tchadien s'est entretenu en tête-à-tête avec son homologue algérien avant de présider une cérémonie de signature d'une trentaine d'accords bilatéraux. Une salve historique d'accords qui consolide la relation entre les deux pays, alors que l'Algérie veut retrouver des liens forts avec ses voisins, notamment en Afrique subsaharienne. Sofiane Amazian.
Avec ses 34 accords bilatéraux portant sur des secteurs clés comme l'énergie et la sécurité, Mahamat Idriss Déby s'est trouvé un nouveau partenaire important, l'Algérie, qui de son côté réaffirme son positionnement. Car selon Michael Ayari, analyste Algérie-Tunisie à l'International Crisis Group, ces accords signent un retour en force vers l'Afrique de l'Algérie et notamment, je cite, dans une région devenue stratégique pour les puissances moyennes. Après le réchauffement des relations avec le Niger, la diplomatie algérienne se renforce au Tchad, avec l'objectif pour Michael Ayari de faire un petit pied de nez au Maroc, sachant qu'il y a une concurrence importante entre les deux pays en Afrique subsaharienne. En effet, le Maroc a multiplié les projets d'investissement avec le Tchad, notamment sur le plan énergétique et culturel. De son côté, N'Djamena avait entamé un rapprochement en 2024 et l'inauguration de son consulat à Dakhla, au Sahara occidental. Le Tchad est donc au centre d'une concurrence Algérie-Maroc, alors que les deux pays, à l'initiative de projets de gazoducs transatlantiques pour le Maroc et transsaharien pour l'Algérie vers l'Afrique centrale, veulent étendre leur influence.
Au Togo maintenant, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, est arrivé jeudi soir à Lomé pour 2 jours. C'est la première visite officielle française de si haut niveau depuis 10 ans. Monsieur Barrot s'est entretenu jeudi soir avec le dirigeant Faure Gnassingbé et échangera avec son homologue Robert Ducey ce vendredi. Retour en France maintenant, à 1 an de la prochaine élection présidentielle. Le milliardaire breton Vincent Bolloré lance son Institut de l'Espérance, discrètement déposé il y a 1 an. Il s'agit d'un groupe de réflexion d'inspiration chrétienne et ultra-réactionnaire, notamment sur l'immigration, l'avortement ou encore l'enseignement, et avec pour objectif revendiqué de peser sur le débat politique français. Carlotta Morteo.
Je m'occupe surtout de philanthropie et de spirituel.
Vincent Bolloré face à la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel.
une image floue, une fenêtre qui dévisage et qui appelle au soulagement. Alice du cinquième étage, un chemin elle s'est coupée sur les restes de son miroir brisé.
Son maquillage a coulé sous les flots d'incompréhension de ses yeux usés. Ça lui donne un air étrange, elle a l'habitude, elle s'est toujours sentie étrangère. Vouloir couper les ailes des anges, est-ce vraiment si peu terre à terre?
Elle se fout de ses questions,
elle se laissait bien trop poser.
Le corps toujours assoupi,
mais la tête jamais reposée. Le monde entier ne peut contenir les rêves avec lesquels elle veut en finir.
Pourtant,
elle se dit que quelque part la vie doit être belle. Cet espoir lui fait sentir les battements de son cœur qui prend la place dans ce corps beaucoup trop petit pour elle, ou trop grand selon les matins, selon son humeur.
Tout va bien, tout va bien.
Encore un appel au secours, diront ses parents occupés. On augmentera son argent de poche pour la consoler. Mais ce qu'elle veut, c'est que son père l'aime et que sa mère veille, histoire d'enfin trouver asile au pays des merveilles.
On lui dit que ça passe
avec l'adolescence, mais ça ne passe pas. Alice le sent en la conscience, au plus profond de son être. La fleur se pâne et la détourne du chemin qui l'a menée à être femme.
Elle s'est réfugiée dans les livres, elle sait créer son monde.
Une bulle opaque qui reste ouverte à celui qui veut entrer.
Un endroit qui contredit la théorie que la Terre est ronde.
Où les étoiles s'usent à force de trop les regarder.
Mais ce monde-là, personne n'en veut. Ce monde-là est étouffé
par ce sentiment cruel que l'on appelle réalité. Où elle est trop taciturne pour ses amis qui l'ont quittée.
Ou bien pas assez mature pour ses parents. Trop occupée.
Alors elle hésite devant cette fenêtre qui l'a vu grandir.
Dans cette chambre où s'entrechoquent bon et mauvais souvenirs.
Sur un coup de tête, elle s'est coupé les cheveux comme quand elle était petite fille.
Ça lui rappelle ses premières dents
quand elle croquait l'esprit de famille. Mais ça lui rappelle aussi que cette époque est lointaine. Depuis sa gorge est si serrée, elle n'arrive plus à avaler. Elle crache sa haine au monde et le monde lui rend bien. Alors elle s'enferme dans sa bulle et n'espère plus rien.
C'est la folie.
Encore un appel au secours, diront ses parents occupés. On augmentera son argent de poche pour la consoler. Mais ce qu'elle veut, c'est que son père l'aime et que sa mère veille, histoire d'enfin trouver asile au pays des merveilles.
On lui dit que ça passera
avec l'adolescence,
mais ça ne passe pas.
Alice le sent en la conscience, au plus profond de son être. La fleur se fane et la détourne du chemin qui l'a mené à être femme.
J'étais terrifiée.
Non. Là, on se calme, Alice.
La lumière de la rue en des couronnes dorées. Regard kaléidoscope à force de pleurer. Une fenêtre s'est ouverte au cinquième étage. Alice observe la nuit et sourit de son vertige.
Elle désirait être une ambule pour sentir le vide sous elle. Disparaître de fil en bulle, dénouer le nœud qui la ficelle. Tout à coup elle n'a plus peur, elle n'est même plus angoissée. Elle pense qu'on vit qui l'entoure du toit au rez-de-chaussée. Elle sent l'air contre son corps, mais elle n'a pas froid. Elle fait sa fenêtre qui s'éloigne, mais ça ne l'inquiète pas. Elle fait perdre les étoiles et en même temps elle s'en approche. Elle fait que sa bulle la protège contre la douleur de la roche. Mais nos pratiques de large, sans les guerres et sans guerre, personne n'a su y entrer. Aujourd'hui, elle est vide.
Ce que je dis, je le pense pas, je bouge pas. Je trouve flemmard pour faire un pas moyen de sortir. Depuis mon plumard, si on me pousse pas, j'ai perdu les pédales de mon tricycle. Et j'ai que les semelles dans mes pompes pour freiner quand ça va vite.
Faut que tu trouves un truc stable, une pépère, un bon travail.
La TTA, mes gosses et les vacances en caravane.
Et si tu faisais du purin?
Le gras, parler de trucs que je comprends pas. Avec des mots que je trouve sympa, être un purin Citroën. Avec la rage dans la gorge, que les motherfuckers comme un poulet qu'on les gorge. Mais j'ai la rage qu'on personne, et je suis procédé dans mon. J'ai des carnets dans une pourrie, mais pas d'inspi pour les acides. Et être un MC nique, sinon un MC cicatrice. Mais j'ai pas de stigmate, et ça me presse vite. Capiche? clôturé sur mon canard. J'ai vite au max de ma calade. Aux antipodes de Kerouac, ma Max un full vagalame. Donc voilà l'homme, le mot sapion sacré tout le valium. Pas besoin d'écrire ta bagnole pour voyager, moi je pique un somme.
Je pense pas que t'es en train de niquer ta vie, mec.
Mais ma vie elle m'emmerde, elle me dit de quoi tu fais. Ma vie c'est une grande vie, elle a pas besoin de m'aider. Moi j'ai pas besoin d'elle, moi y'a pas de problème, c'est. Moi je m'éclate, hein. Oh, je suis au 7ème ciel. Même si c'est pas vrai, si je tourne en rond sur le carousel, pour moi c'est le manège enchanté. Si parfois ça me fout la gerbe, je te dois toucher le pompon, choper le dragon du bolisel. Sûr qu'on va être hyper potes comme Azrael et Gargamel, mais faut se calmer sur le mélodrame. La solution à tous nos problèmes sont dans les céréales. Le you, je te jure, promets inscrit s'il y a des rattrapages. Quand même, parfois je sens que je suis pas la part. J'ai pas de couilles, pas de courage, pas de carré, pas le plombage, j'ai pas de bave, pas la rage. Même pas la tête dans les nuages, je suis pas la part. J'ai pas de couilles, pas de courage, pas de carré, pas de plombage, j'ai pas de bave, pas la rage. Même pas la tête dans les nuages, je suis pas la part.
J'ai pas les couilles à Charlie, j'ai pas sa folie, aucun mérite, j'ai un tard monté, je monte en torse, enfin un peu de thune, pas de bolide, mais solide, quelques envies et phobies, je suis basta quad comme Jovi, j'ai aucune cause à mourir pour, j'ai pas fait de discours, à pas quelques risques pour quelques risques tournent, paraît que la roue tourne, mais c'est une voie à sens unique, j'ai pas la vulgarité que ton style communique, et comme éniqué, je m'en fous un peu de tout, vas-y, mes vœux sont pourris, tu peux me chercher des poux sous les ombrages du temps, comme une braise éteinte, mon son ne sert à qui, souvent je brasse du vent, toujours à contre-sens. Comme un malvoyant mal avisé, malveillant mind paralysé. Analysé, sans dramatiser, sans haine attiser. Mon test, un drame poétisé. Morale sous les brises. Des M6 émouvent mon M6 bar. Mais excusez-moi, je les M6 beige. Parfois des phases à dessous de balles, en dessous que dalle. Prends l'aide textuelle intégrale. Ma vie n'a rien de spécial. Sous peu, je pète un plomb, chial comme un mec ton. Pour des histoires d'ego ou de sentiments, je sens que tu moi-même quand ton sourire m'aborde gentiment. J'ai pas le swag à Booba, ni à Caris, mais j'ai le flow coincé dans les chicots comme une carie. J'ai pas de punchline ni de fuse, et je suis aveugle. Si la vision nécessite une paire de Gucci comme une bougie éteinte, j'éclaire ma vie de folie quand mon anatomie sombre dans le bout et la peinte. Quitte à bouger la tête, suis de la tendance, l'indécis balance le beat que je bousille l'enceinte. Car je suis pas la page, moi.
The bourgeois town. Sur le DAB+.
Sur le DAB+.
Sous-titrage Société Radio-Canada.